Nouvelle fois avec vous et comme je vous l'avais promis aujourd'hui, ben, j'allais être en live avec vous. Bon, les objectifs ils sont doubles à chaque fois. Le premier objectif c'est de répondre à l'ensemble des questions que vous avez en termes nutritionnels et alimentaires parce que ben, bien sûr rien ne s'arrête et l'alimentation est devenue un pôle extrêmement prioritaire dans notre vie. J'entends par là que on se rend compte au jour d'aujourd'hui qu'il y avait deux facteurs qui étaient éminemment importants à l'heure actuelle. Dans l'ordre, on va dire, ou dans le désordre, il y avait deux facteurs importants. Le premier, c'était effectivement l'alimentation et le deuxième, c'était les soins. Et ça a remis en place les principales valeurs qu'on doit avoir en tête, en tout cas dans notre pays. Ça veut dire que notre raison nos deux points importants d'existence, ils sont conditionnés essentiellement par les soins et l'alimentation. Et après, il ne faut pas oublier l'essentiel non plus, c'est-à-dire l'eau, l'électricité, et puis les transports. Voilà, c'est cinq choses autour desquelles ça tourne. Je l'avais dit un peu de façon ironique la dernière fois, où j'avais expliqué que finalement, ça remettait l'ordre des valeurs en place. Ce qui signifiait que autant avant on a été captivé par un certain nombre de choses et on a idolâtré un certain nombre de personnes, autant ces gens-là, ils n'ont pas apporté, on s'en rend compte aujourd'hui, à la société l'essentiel pour la survie de chacun d'entre nous, mais aussi des différentes populations. J'ai écouté, peut-être comme vous, les présentations du Premier ministre et du ministre de la Santé. Bien sûr, ça vous intéresse à tous. Moi, ça m'intéressait particulièrement. J'avais la chance d'en connaître un bout pour des raisons particulières, puisque j'ai beaucoup d'amis qui circulent dans l'environnement du gouvernement, mais je voulais savoir si ça allait aller jusqu'au bout des recommandations qui ont été faites. Je voulais dire en préambule que, première chose, d'abord, bien que moi-même médecin, je pense que c'était vraiment au gouvernement de prendre les décisions, et je trouve que le conseil scientifique, ces derniers temps, a plutôt dérapé dans la mesure où on ne peut pas avoir une consigne d'un côté qui soit la consigne des gouvernants, c'est-à-dire ceux qui ont l'autorité, et une consigne scientifique qui ne répond pas à des impératifs globaux. C'est donc les différents écarts qu'on a vus à propos notamment de nos plus anciens ou certains médecins, voire même le président du conseil scientifique a été relativement péremptoire pour interdire aux gens, pour confiner les gens. Et donc ça, j'ai trouvé ça tout à fait déplacé et malséant vis-à-vis des personnes âgées à qui la population doit beaucoup puisque ce sont eux qui ont élevé les gens jusqu'à aujourd'hui, donc vraiment important. Donc je trouve que pour le moment, le gouvernement joue le jeu, ça veut dire, bon, on a compris, il y avait des déficits avant que l'affaire commence, complètement rendu compte de la gravité de l'affaire et peut-être que certaines raisons en sont imputables aux pays étrangers, voilà. Donc moi je trouve que pour le moment, à marche forcée, ils arrivent à gérer l'affaire et finalement on est à peu près dans la même situation que les autres pays, voire même mieux que certains pays comme l'Italie ou l'Espagne, et ça doit, j'en vis pas du tout leur place à l'heure actuelle. J'avais prévu de vous parler, en plus de ça aujourd'hui, spécifiquement de ces fameux facteurs de risque qui vont être la préoccupation principale du confinement. Et je sais que j'ai commencé déjà à intervenir depuis cet après-midi sur le sujet, mais je sais que le problème du surpoids et de l'obésité, mais on va dire de l'obésité, donc vous allez oublier le mot surpoids à l'heure actuelle, que le problème de l'obésité va devenir un problème très important dans l'affaire du Covid. Il l'était déjà auparavant, mais il va devenir très important. Auparavant, donc vous aurez une vidéo complète là-dessus qui sortira jeudi. Je l'ai tournée en catastrophe aujourd'hui parce que je suis devenu un professionnel du sujet. Pour faire ça, j'ai réuni l'essentiel de la bibliographie mondiale sur le sujet de l'obésité et du Covid-19. Et comme j'ai réuni cette bibliographie, ben, je vais vous en livrer les conclusions. La première chose, d'abord, je voudrais rassurer tout le monde, j'ai quand même les chiffres, même si l'affaire est inquiétante, les chiffres sont maintenant définitivement formels. C'est-à-dire, quand je les regarde, là, on a 14% de formes graves et 5% de passages en réanimation. Et tout le reste, 81%, sont des gens qui vont guérir sans avoir à faire appel à autre chose qu'aux soins que vont leur donner leurs médecins traitants. Et d'ailleurs, j'insiste comme tout le monde pour dire ceux qui ont des pathologies chroniques, ceux qui avaient besoin de prise de sang, ceux qui avaient besoin de renouvellement d'ordonnance, c'est vachement important d'aller chez vos médecins. Vous n'allez pas vous mettre en danger simplement parce que vous avez l'angoisse du Covid. Les cabinets médicaux sont suréquipés à l'heure actuelle. C'est-à-dire que tout le monde a mis des vitres pour protéger. On commence à distribuer nous-mêmes les masques aux patients, ce qui fait que le patient est protégé et le médecin est protégé. Donc, les cabinets médicaux sont sécurisés. Donc, retournez si vous avez la moindre pathologie, retournez-y vraiment parce que les choses peuvent devenir beaucoup plus compliquées par la suite et c'est pas la peine de prendre de risques. Il ne faut pas se faire récuser à l'entrée à l'hôpital simplement parce qu'on a attendu trop longtemps. Donc, les chiffres, je vous les rappelle, c'est 81% de gens qui vont guérir. Il ne se passera rien, ils ne sentiront même pas les choses. 14% de formes graves, ça veut dire vous allez peut-être aller à l'hôpital, vous aurez une oxygénothérapie par masque la plupart du temps et 5% vont passer en réanimation. Et à l'intérieur de ces 5%, il y aura de la mortalité. La mortalité aujourd'hui, elle est de 2,5%. Elle va probablement se réduire progressivement. Donc, bien sûr, c'est très, très gênant et c'est très angoissant, etc. Mais au total, 97,5% à 98,5% de la population aura peut-être été malade, mais sortira que ça sans complications, avec des mini-complications ou en étant passé par un stade plus élaboré. Ce qu'on observe aussi en réanimation, je vous donne les chiffres exacts parce que maintenant, on commence à les avoir précisément, c'est que ça se passe mal en réanimation chez les gens qui ont une comorbidité. Vous avez compris maintenant ce terme qui est un peu compliqué, la comorbidité, ça veut dire que vous n'arrivez pas à l'hôpital en étant un super jogger et en étant en super forme, etc. Mais vous avez une maladie, cette maladie, ça peut être plein de choses. Les cas qu'on a relevés, c'est le diabète pour 30%, l'hypertension artérielle pour 21%, les maladies cardiaques pour 36%, les maladies pulmonaires pour 23% et également l'obésité. L'obésité, elle a été calculée sur les IMC supérieurs à 40 à 9%, mais ça ne signifie pas que cette obésité supérieure à 40, elle ne signifiait pas qu'en dessous, il ne se passait rien. Et c'est pour ça que le chiffre officiel, c'est que 48, je ne veux pas me tromper, il faut que je sois très exact puisqu'il y a des gens qui sont très pointus là-dessus, il y a 48,3% des gens obèses qui peuple la réanimation. C'est-à-dire qu'un malade sur deux en réanimation est obèse. Et quand on appelle obèse, tout le monde me demande le chiffre en général. Je vois que Pierrot Ménès, quelqu'un me parle de Pierrot Ménès, c'est un copain à moi, effectivement, il m'a fait rigoler, ces petites parenthèses, parce que je lui ai dit qu'il avait une façon de perdre du poids qui était assez originale, un coup la grève du foie, un coup le Covid. Donc voilà, mais c'était pour vous dire qu'un patient sur deux en réanimation est obèse, donc on considère aujourd'hui que l'obésité est vraiment un facteur de risque. C'est une situation exacte. Ça ne me fait pas plaisir de le dire parce que c'est mon domaine d'activité, donc je trouve que c'est double peine. C'est-à-dire que les gens qui ont une obésité, déjà, ils sont en souffrance et on leur annonce qu'un obèse sur deux, une personne sur deux en réanimation est obèse. Ça ne signifie pas que tous les obèses vont passer en réanimation, évidemment. Je vous signale d'ailleurs que pour la grippe, d'une façon générale, c'est pareil. Que ça soit la grippe légère, la grippe A ou la grippe H1N1, ben, on avait exactement la même chose, c'est-à-dire que les obèses récupèrent un peu moins vite et ça dure un peu plus longtemps. Donc, c'est une statistique qui n'est pas étonnante. La seule chose qui a été étonnante, c'est que dans le passé, quand il y a eu les infections au SRAS, eh bien, l'obésité était un facteur de protection. Ça, c'est incroyable, mais c'est comme ça. Et donc, ça signifie qu'aujourd'hui, tous les gens qui sont à risque, ça veut dire que ce soit pour une maladie quelconque ou que ce soit pour une obésité, eh bien, ce sont des gens qui devront se protéger. Moi, je suis opposé à l'histoire du confinement définitif parce qu'il va susciter d'autres problèmes. C'est-à-dire que quand vous êtes confiné trop, trop longtemps, ben, vous devenez dingo. C'est dit en termes un peu vulgaires, mais ça sera un peu comme ça. Dès que vous allez être enfermé un certain temps, au début, c'est supportable. Vous avez toutes les séries à regarder, la télévision, les amis à appeler, puis au bout d'un moment, ras-le-bol et vous allez sortir et quand on sort et qu'on est tous confinés, ce que j'ai fait puisque j'ai la possibilité de le faire moi à cause de mes cas professionnels, ce que je fais, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que si je vais travailler quelque part, j'ai l'impression que je vais sortir mais il ne se passe rien, il y a zéro activité nulle part. Donc quelque part, c'est comme dans le célèbre film Contagion et on a le sentiment d'être dans une espèce de monde parallèle. C'est un peu angoissant. Concernant l'obésité, je vais continuer en vous donnant les explications pourquoi les obèses seraient plus touchés aujourd'hui que les autres. Alors, il y a plusieurs explications. Je ne les mets pas dans l'ordre. La première explication la plus simple, ça serait une carence en vitamine D. Très fréquemment chez les obèses, il y a une carence en vitamine D. Donc, certains ont avancé l'idée que ce serait une carence en vitamine D. Si c'est ça, ça serait assez simple à résoudre. Donc, il suffirait de donner de la vitamine D à tout le monde. Ceci dit, on peut en donner. C'est ce qu'a proposé là, récemment l'ANSES pour des raisons d'ordre général en disant il faut prendre 15 minutes de soleil par jour et prendre de la vitamine D. Donc, ça, c'est possible. La deuxième explication, elle est beaucoup plus raffinée. Le tissu adipeux, alors là, je vais utiliser des termes compliqués, mais je vais essayer de vous les simplifier. Le tissu adipeux n'est pas un tissu inerte. Le tissu adipeux, c'est un tissu qui sécrète des hormones et même des composés chimiques. Parmi ces composés chimiques, il en sécrète un qui s'appelle les cytokines. Et ce produit, les cytokines, c'est un produit qui, quand il y a un antigène dans le corps, il va améliorer, il va développer la réponse immunitaire, il va enclencher le système immunitaire. Eh bien, on pense que chez les obèses, le tissu adipeux contient énormément de cytokines, et donc ce qui explique qu'il déclenche une réponse immunitaire qui n'est pas une réponse immunitaire modérée, mais qui va être une réponse immunitaire amplifiée, si bien qu'il y aura un état inflammatoire aigu, et donc l'obésité serait responsable indirectement de cet état inflammatoire aigu, et fatalement, les choses deviennent plus compliquées, n'aboutissant pas régulièrement à quelque chose de grave, mais elles deviennent plus compliquées. Une troisième hypothèse, elle est compliquée également. Eh bien, toujours dans le tissu gras, vous avez une hormone qui s'appelle angiotensine, mais retenez que c'est une hormone. Eh bien, il semblerait que ce COVID-19, il ait une faculté de stimuler et de se coller à cette hormone qui soit plus grande chez les obèses que chez les non-obèses. Et cette hormone, elle a quoi comme effet? Eh bien, elle a pour effet d'augmenter la tension artérielle. Donc, finalement, ce serait un effet d'hypertension artérielle, mais qui serait induit par le fait que les gens sont obèses. Et la quatrième chose, mais elle est tellement évidente que vous devez le savoir vous-même, c'est que en cas d'obésité, la menace de maladies métaboliques, que ce soit les maladies cardiovasculaires, etc., bon, enfin, l'hypertension artérielle, le diabète, etc., étant plus important, ben ça s'assimile aux autres facteurs de risque que j'ai cités précédemment. Voilà la réalité sur les obèses. En pratique, et pour vous donner des chiffres exacts, les choses démarrent à partir d'un IMC supérieur à 30. Les choses ont été calculées de façon très très fine au-dessus de 40. C'est-à-dire quand même des obésités plus que sévères. Donc, entre 30 et 35, c'est un peu plus compliqué. Entre 35 et 40 d'IMC, c'est compliqué. Au-dessus de 40, c'est très compliqué. Voilà ce qu'il faut retenir. Quelles conséquences en tirer? Ben, la première conséquence, c'est dans ces périodes-là, ce n'est pas de dire « je vais me mettre à maigrir demain matin et je vais perdre 20 kilos en 15 jours ». Ce n'est pas vrai. Ça ne se fera pas comme ça, mais il faudra le faire. Mais la deuxième conséquence, c'est de se dire surtout que quand on dit que les choses sont compliquées, ça veut dire que ceux qui se protègent d'une façon générale et qui vont adopter tous les systèmes de protection qui sont en train de mettre en œuvre, les gestes barrières qu'on commence à connaître par cœur, les distances la distanciation avec les autres, ok, ça sera bien. Eh bien, toutes les personnes qui sont à risque, il faudra que ces personnes soient beaucoup plus prudentes que les autres personnes. Ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas sortir, ça veut dire qu'elles doivent se surveiller elles-mêmes, mais surveiller aux alentours d'elles-mêmes. Ça veut dire que vérifier que tous les gens qui sont autour de vous, que ce soit les voisins, les gens que vous croisez dans la rue et même votre famille, qu'ils soient extrêmement vigilants à ça pour vous protéger. Voilà ce que ça signifie, en tout cas, tant qu'on n'a pas grand-chose de plus. Et à mon avis, je fais un pronostic aujourd'hui, vous allez voir que là, je ne crois pas au vaccin. C'est terrible à dire, mais je pense que ce virus, c'est un virus compliqué et vous avez vu que pour d'autres maladies, ça n'a rien à voir. Mais par exemple, avec le VIH, le virus du sida, on n'a jamais trouvé de vaccin. Ce virus est compliqué aussi, donc je ne suis pas certain qu'on aura un vaccin rapidement. J'y croyais au début, honnêtement, j'y croyais au début, j'y crois de moins en moins. Par contre, je pense que la solution, elle viendra des traitements, une fois de plus, comme ça a été le cas dans le cadre du VIH. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, à force de tâtonner et de trouver, on finit par trouver un traitement. Et ce traitement, ce n'est pas toujours une seule molécule, ça peut être deux molécules, ça peut être trois molécules. Et au bout d'un temps, là par contre, c'est un virus respiratoire. Au bout d'un temps, ce qui va se passer, c'est que quand on aura éradiqué et traité un maximum de gens, ça risque de disparaître. Voilà, moi, je ne fais pas de pronostics sur le futur, d'abord parce que ce n'est pas mon métier, je ne suis pas infectiologue ou virologue, mais je tenais à vous donner cet ensemble d'informations. Parallèlement à ça, je dois vous dire que sur le plan des aspects psychologiques, C'est une affaire qui va se régler. Le propre d'une crise en médecine, on le sait tous, le propre d'une crise en médecine, c'est qu'elle crée une fracture, mais que cette crise finit toujours par être résolue. Donc, cette crise va être résolue comme les autres. Donc, si vous faites attention à vous, il y a trois paramètres qui doivent vous aider à garder le moral. Un, si vous faites attention à vous, vous risquez très, très peu de choses. Deuxièmement, le seuil de mortalité de la maladie, il est quand même, je ne dis pas qu'il n'est pas faible par rapport à d'autres maladies, mais il n'est quand même pas aussi violent que l'expression médiatique qu'on en a. C'est grave, mais ce n'est pas violent. C'est-à-dire que si vous rapportez à 100 individus, eh bien vous aurez 5 individus qui auront une forme grave qui nécessite le passage en réanimation et 2 qui peuvent ne pas survivre. Voilà, ça c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que de toute façon, on finira par trouver la solution. Donc, ça veut dire qu'à mon avis, pendant une période… Alors, peut-être, les explications de Raoul ne sont pas mauvaises. Quand il dit que le virus peut disparaître pendant les périodes chaudes, ce n'est pas la chaleur simplement, c'est qu'on sait que ces virus ont des activations et des réactivations qui dépendent des périodes et il est possible que le virus s'affaisse pendant quelques temps, mais il n'est pas impossible qu'il redémarre à un moment donné. Et je trouve que les mesures qui sont prises à l'heure actuelle, elles ne garantissent pas le risque zéro, mais elles sont de plutôt très, très bon augure. Donc, vous aurez l'intégralité de cette communication que je fais. Je pense que vous me verrez dans les médias pour en parler cette semaine sur le rapport entre l'obésité, etc. Ne flippez pas. J'ai parlé d'obésité et j'ai parlé d'obésité sévère. Donc, mais les obèses sévères, à la limite, si je reprends, je ne sais pas si vous avez lu le livre que j'avais écrit avec Guy Carlier, mais quand on a une obésité supérieure à 40, la grippe est une menace, les blessures sont une menace et les obèses le savent. Et je rappelle encore une fois que les gens qui ont des obésités morbides telles que celle-là ne sont pas des gens qui sont des demeurés et qui mangent mal. Ce sont des gens qui ont soit un problème génétique, soit qui ont mal été pris en charge, soit qui ont un problème de comportement alimentaire, soit qu'on n'a pas assez encouragé. C'est toutes les raisons pour lesquelles j'interviens sur ce sujet. Mais quoi qu'il en soit, même dans les cas difficiles, que ce soit je parle des obésités parce que c'est mon domaine d'activité, mais les hypertendus, les maladies du rein, les maladies pulmonaires, les maladies cardiaques, etc. Si vous faites gaffe, ça ne veut pas dire se cloîtrer chez soi, mais ça veut dire si vous respectez en allant dans la rue les mesures d'éloignement qu'on vous a données, a priori, ça se passera bien. Et si vous les respectez, vous allez protéger également les autres parce que on sait que la charge virale chez quelqu'un qui a un fort surpoids, elle est plus importante et il faut 42% de temps, j'ai le chiffre exact, 42% de temps supplémentaire pour l'éliminer chez quelqu'un qui a un volume de tissu adipeux trop important. Alors, j'ai hésité à faire ce live sur ce sujet parce que beaucoup d'entre vous qui me suivent sont des abonnés de Savoir Maigrir. Fort heureusement, la plupart d'entre eux maigrissent, mais il y a probablement un caractère anxiogène là-dedans, je voudrais le pondérer simplement par l'optimisme que j'ai moi-même. Depuis que je fais ces lives, vous avez vu que je n'ai jamais été tétanisé et que je n'ai jamais balancé du sensationnel pour faire peur aux gens. J'ai donné de l'information pour que vous soyez au courant et j'essaye que cette information elle soit le plus solide possible en arbitrant sur des données scientifiques appuyées par une bibliographie mondiale. Ceux que ça intéresse pourront réclamer l'ensemble de la bibliographie, mais je crois qu'on la publiera jeudi justement pour montrer qu'il ne s'agit pas de fake news comme j'en vois de temps en temps. Voilà, maintenant, je trouve que… Alors, les masques, j'ai entendu ce qu'a dit Véran, enfin, je le savais, je n'ai pas eu le temps de l'entendre, mais à partir d'un certain moment, à partir du 11 mai, tous ceux qui voudront circuler avec des masques pourront le faire. Moi, je vous suggère quand même de le demander dès que vous l'avez. Il est clair que ça protège, pas autant que ce que tout le monde pense, mais ça protège. Le masque protège probablement plus votre interlocuteur qui ne vous protège. Donc, c'est important que tout le monde les porte. Comme ça, on se protège de l'interlocuteur, on protège l'interlocuteur et l'interlocuteur nous protège. Voilà, ceci étant, j'ai vu le remarquable succès des émissions de mon copain Cyril Lignac sur M6, émission remarquable parce que c'est simple, c'est didactique et c'est fait à la cool comme il sait le faire. Ça voulait dire qu'on était dans un temps de cuisine. Qu'est-ce que j'allais dire Et donc, ça veut dire qu'on a tous eu la même préoccupation. Cependant, alors là, jeudi prochain, vous aurez cette vidéo spécifique sur le déconfinement, les surpoids, les facteurs de risque sur YouTube. Et la semaine d'après, je mettrai en ligne une vidéo spéciale, je vais perdre du poids pendant les 15 jours qui précèdent le déconfinement, ne serait-ce que pour récupérer le poids qui a été pris pendant cette période. Ce que j'ai observé sur moi-même, ainsi que sur tous mes copains et sur vous d'ailleurs, même si vous êtes de fins cuisiniers, c'est que les débuts du confinement, ça a été la fête de la nourriture. Moi, je me souviens des repas qu'on se faisait avec mon épouse, je vais trahir des secrets, bœuf stroganoff en crème, avec des petits oignons revenus, saumon sauce curry, enfin bref, des trucs super bons. Et puis progressivement, ça s'est ralenti parce que tout s'épuise au bout d'un moment et puis parce que je me pèse régulièrement sur la balance. Et quand j'ai vu que j'avais pris 1,5 kg, je me suis dit que ça allait, ça, il fallait s'arrêter. Donc, je pense que c'est la même chose que vous. Pour vous, on va s'apprêter à sortir. C'est le moment d'être le plus en forme possible. C'est pas focalisé sur les raisons que je viens d'exposer. Ça veut dire ce que je viens de vous raconter n'a rien à voir en définitive avec ce qu'on va se dire à propos de l'alimentation. Mais je tiens à vous donner les nouvelles au fur et à mesure qu'elles arrivent. Aujourd'hui, il y a eu un exercice pédagogique de premier niveau qui a été fait par notre Premier ministre, Édouard Philippe, et Olivier Véran, le ministre de la Santé. Donc, continuons à rester transparents, voilà, et on verra. Alors, je sais que le ministre était en train de parler en direct, je suis au courant. Je peux même vous dire que cet après-midi, pour se relaxer, parce que c'est quelqu'un qui travaille très dur et très fort, il était dans le jardin à Matignon, il a pris une chaise longue et il s'est allongé. Voilà, et il a le droit parce que le mec, il est en grosse difficulté, hein. Alors, que mal me dit, j'ai des douleurs au niveau de la poitrine, est-ce normal? Ben, je réinsiste là-dessus. Je ne peux pas traiter des douleurs à la poitrine comme ça ici sur le web. Tout ce que je peux te dire, c'est que chaque fois que vous avez quelque chose qui vous inquiète, n'hésitez s'il vous plaît absolument pas à appeler ou à aller voir votre généraliste. Vous ne risquez rien. Ce n'est pas les cabinets médicaux, les foyers de transmission les plus forts. Imaginez et pensez aux soignants. Même quand je Pompidou, je ne vous dis pas que je suis en première ligne, mais si je vais à l'hôpital, je vois bien par la vitre de la fenêtre de la réanimation que toutes les personnes qui sont là auprès du Covid, les soignants, les aides-soignants, les infirmiers, les brancardiers, etc., ils sont beaucoup plus dans un environnement Covid que le simple cabinet médical, sans compter que les médecins font à la fois très attention à eux et très attention à leurs patients. Les aliments pour te proposer l'immunité, pour améliorer l'immunité, Sweeter Smile, je te propose d'aller regarder plutôt, pour ne pas ennuyer tout le monde, la vidéo qui a été faite sur YouTube, sur ma chaîne, les aliments qui boostent l'immunité. Je rajoute aujourd'hui la vitamine D, en particulier pour la population qui est en surpoids. J'en suis plus sûr d'en avoir trop parlé. Bonjour du Brésil, salut Marcia Valdez, très sympa. Alors, Émilie, bonsoir Dr Cohen, merci. J'ai des règles abondantes depuis une semaine. Et du coup, je me sens faible et fatigué. Est-ce que je dois consulter? Oui, Émilie, absolument. Je vous le répète, reprenez pied. J'ai eu une personne dans mon environnement qui avait des douleurs à la poitrine, qui n'a pas voulu aller à l'hôpital pour se faire examiner. Cette personne, elle avait déclenché ce qu'on appelle une angine de poitrine qui s'est révélée peut-être à cause du stress. Quand elle est allée à l'hôpital, en fait, elle a déclenché un infarctus postérieur qui n'est pas très grave. Mais en fait, si elle avait été à l'hôpital au moment de ses douleurs à la poitrine, on l'aurait thrombolisée, ça veut dire immédiatement, et je pense qu'elle n'aurait pas fait l'infarctus et elle aurait 100% de son muscle cardiaque. Ben, c'est la même chose pour vous tous. Ça concerne de la simple otite qui peut devenir un problème important jusqu'à cette histoire de maladie coronarienne, jusqu'aux infections urinaires, tout est important. Donc, allez-y, n'ayez pas peur de le faire, hein. Là, je vois que je sens que je suis en compétition avec Olivier Véran, qui est un type formidable au passage, je vous le dis, hein, c'est un type formidable. Ben, moi, j'ai la chance de le connaître, donc c'est un type formidable, très actif et vraiment péchu, quoi. Moins 17 kilos en partie grâce à vous, ben, Michael Etienne, génial, ça fait plaisir. Que pensez-vous des révélations du professeur Montagnier? Ça se tient, quoi. Je veux dire, d'abord Montagnier, c'est pas un hurluberlu, mais même si certains ont essayé de le dévaloriser en disant qu'il avait vieilli, ce qui est exact, mais ça semble pas complètement idiot. C'est vrai que s'il y a un laboratoire dans une ville où le virus est né en quelque sorte, et si en plus le patient zéro il n'était pas dans le marché, ben, ça semble assez logique. Maintenant, après, quant à la théorie conspirationniste, est-ce que les Chinois nous voulaient du mal ou non, j'en sais rien du tout. Je pense que les services secrets de tous les pays du monde sont en train de faire ça. Mais tout ce qu'on sait, c'est que de toute façon, les Chinois comptaient bien capitaliser sur la douleur mondiale en disant « nous, on est les meilleurs, on a réussi à juguler l'infection et on va vous aider tous, etc. » Bon, j'en suis pas certain, hein. Bonsoir docteur, je suis auxiliaire parental. Donc après le confinement, est-ce que je pourrais faire des câlins et des bisous aux deux jeunes enfants dont je suis la nounou? Écoutez, au travers de ce que je vous ai dit, le risque, il est à la fois nulle part et partout, Christelle. Les jeunes enfants sont peu porteurs de virus. Ça veut dire que les enfants et les jeunes enfants portent une quantité faible de virus, mais ils peuvent en porter. Donc moi, je pense que c'est plus prudent que vous vous protégiez. Maintenant, si les enfants ont été confinés pendant longtemps chez eux, avec leurs parents, à la limite, vous êtes totalement protégés. Si les gamins sont restés confinés pendant 15 jours, 3 semaines, il n'est pas certain que, d'abord, ils le portent moins longtemps et ont une moins grande quantité, donc ils seront plus contaminants, même s'ils l'étaient. Voilà, donc moi, je pense que vous pouvez le faire, absolument. Wardy, bonsoir docteur, en dehors du sport à la maison avec vous, des petits exercices de mouvement qui permettent de bouger un peu en complément sans rester allongé toute la journée. Ben, si les exercices ou les mouvements, c'est tout bête. Moi, j'ai un copain, il écoute des musiques et il danse. Alors ouais, c'est assez rigolo, mais il fait ça. Et j'en ai un autre, il tourne autour de sa table de chez lui et il marche comme s'il faisait une marche en regardant des vidéos ou en lisant des livres. Voilà, mais c'est tout ce que je peux te conseiller. J'ai pas grand-chose de plus. Alors, Sophia, c'est normal que mes ganglions sont plus présents derrière mon oreille? Non. Un ganglion, c'est une réaction immunitaire à une infection notamment. Alors, si c'est près de l'oreille, ça veut dire que c'est probablement soit un bouton qui est près de l'oreille, soit c'est pas un Covid, soit une otite qui est en train de se développer. C'est pour ça que je vous dis, j'arrête pas de vous dire, allez consulter vos généralistes ou faites-les venir si vous avez vraiment la trouille. Hein. Super le programme confinement, je m'y trouve plus à l'aise. Je pense que ça va m'aider à rebooster. Ben, Jocelyne, c'est pour ça que j'avais envoyé ce programme confinement parce que j'avais bien compris qu'à cette période, le régime traditionnel n'était pas suffisant. Il fallait proposer une solution qui aille au-delà. Et c'est ce qu'on a fait en proposant ces formules confinement. J'adore quand vous vous dites bonjour entre vous, c'est normal. En temps normal, les EHPAD sont une honte parce que les personnes très dépendantes étaient martyrisées. L'expérience la plus terrible que j'ai entendue, je l'ai entendue sur France Info il y a 2 jours en circulant, puisque j'étais obligé de faire le tour dans différents endroits. C'est un EHPAD au Canada où en fait le personnel a pris peur et ils ont tous foutu le camp et ils ont laissé les personnes avec seulement 3 soignants, il y avait 130 personnes. Résultat, quand les services sociaux sont arrivés et la police, ils ont trouvé un état, je ne vous raconte même pas, des gens qui étaient morts dans leur lit, des gens par terre qui n'avaient pas mangé depuis plusieurs jours, d'autres qui baignaient dans leurs excréments. Donc, vous voyez qu'on est obligé de tenir ce facteur, ça veut dire tenir compte de ce facteur, c'est-à-dire quelle est la réaction vis-à-vis de cette pathologie, c'est-à-dire il y a des réactions psychologiques qui sont majeures. Hein. Alors, Joël, bon docteur, ma mère, 89 ans, vient d'être testée positive au virus, hospitalisée depuis hier, très épuisée, anémiée et déshydratée car elle ne mange plus depuis 8 jours. Je suis inquiète, mais reste positive. Il faut rester positif. Le seul signe négatif pour ta maman, c'est si à un moment donné, elle a besoin d'un respirateur. À 89 ans, quand on a besoin d'un respirateur, ce n'est pas le respirateur qui pose le problème, ce n'est pas la maladie, c'est le passage en réanimation à 89 ans. Ce n'est pas quelque chose d'anodin. La réanimation, c'est on ne bouge pas dans un lit, on peut développer des infections. On peut développer une ankylose, on peut développer des faiblesses musculaires, c'est ça le problème. Tant qu'elle reste hors de la réanimation, tous les espoirs sont permis. Hein. Bonsoir docteur, comment peut monter la morale? Je ne sais pas ce que ça veut dire, Béate. Comment peut monter la morale? Si c'est comment se remonter le moral, nous sur Savoir Maigrir, on a mis en route la bulle bien-être parce que le moral en baisse, c'est simplement l'anxiété et le stress qui nous envahissent. Dans la réalité, on ne peut pas faire grand-chose à part se protéger nous-mêmes et protéger les autres et se dire ce que je t'ai dit au début. Ça veut dire que, un, le taux de guérison, il est quand même extrêmement élevé. Ce n'est ni la peste, ni le typhus, ni Ebola. Ça reste quand même assez cantonné, même si on est effrayé. Si on vous effraye dans les médias aujourd'hui, c'est parce qu'on a eu peur que l'afflux, la contagiosité extrêmement rapide de ce virus, je pense que vous l'avez tous compris, a été tellement violente que ça pouvait dépasser les capacités hospitalières. Et dans ce cas-là, c'est là où il fallait faire un tri. Ça veut dire, s'il y avait eu X lits manquants, 1000 lits manquants et qu'on reçoive 1000 personnes, qu'est-ce qu'on fait de ces 1000 personnes? Ben, on ne peut pas les accueillir. Voilà, donc là, c'était grave parce que ça voulait dire qu'on avait abandonné l'histoire et ça, ce n'est pas bien. Bonsoir, est-ce qu'un rugbyman est considéré comme obèse par l'IMC? Eh non, très très bonne question, parce qu'en fait, on a la relation, on a une autre relation, c'est qu'on a remarqué que, par exemple, chez les Chinois, les IMC étaient bien inférieurs et ils étaient considérés à risque, mais les Chinois ont une alimentation qui favorise le tissu adipeux, non pas sous la peau comme on le voit souvent en Occident ou en Europe, mais près des organes et dans l'abdomen. Et donc là, c'était un facteur de risque. Les rugbymen, a priori, ont une musculature très développée, c'est-à-dire que leur IMC, c'est le rapport entre le poids et la taille, mais chez le rugbyman, en fait, la disposition de la graisse, s'il y en a, d'abord, il y aura moins de graisse, et ça, il faut faire la répartition, et si disposition de la graisse il y a, ça sera une graisse qui sera disposée d'une façon protectrice, enfin, en tout cas, qui posera pas de problème. Toujours sur Facebook, bonjour docteur, depuis que je suis tout petit, j'ai du mal à aller à la selle avec régulièrement des douleurs au ventre, que puis-je faire? Alors d'abord, il faut se méfier, il faut aller faire une coloscopie pour aller voir ce qui se passe. Et la deuxième chose, c'est que dans ces cas-là, on se fait aider par des produits. À plusieurs reprises, je vous ai conseillé d'utiliser un produit qui s'appelle Psyllia. Le Psyllia, c'est du psyllium qu'on trouve aussi qui marche très très bien. Voilà, ça peut marcher, mais quand même, on fait une investigation en général pour vérifier qu'il n'y a rien. Par exemple, il y a des gens qui ont des colons de très très grande longueur. Voilà. Merci Jocelyne Martin de dire que ton médecin a deux entrées et deux salles, il a tout prévu. Bah oui, c'est ce qu'on fait, hein. Moi-même, j'ai équipé le centre médical dont je m'occupe. Je m'occupe aussi d'un grand, grand centre médical. Je l'ai équipé parfaitement. Quand tu dis ton médecin ni masque ni gants, c'est pas grave. Ton médecin, a priori, il n'est pas contaminant. Mais si toi, tu mets un masque, tu vas le protéger. Et les médecins ont moins peur que tout le monde, hein. Moi, j'ai un médecin dans ce centre médical qui a 75 ans, un généraliste. Alors, il met un masque, mais il ne met pas de gants et il a continué à travailler du début jusqu'à la fin. Claire, moi, je suis obèse, IMC 39,6 et j'ai guéri du Covid avec du paracétamol et beaucoup de repos. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je donnais des taux statistiques, mais je disais que tous les obèses ne vont pas aller en réanimation parce qu'il y a 50%, c'est la différence. Il y a 50% d'obèses en réanimation, mais tous les obèses ne vont pas en réanimation. Le paracétamol et beaucoup de repos, tu as traité la fièvre avec le paracétamol et le repos, ça t'a aidé sûrement à pas épuiser ton organisme, mais en fait, tu as guéri toute seule. Tu rentres dans les 81% de cas des gens qui sont dans cette situation. Est-ce que je suis favorable à la reprise de l'école pour les enfants le 11 mai? Oui, absolument. Je pense que les enfants ne risquent absolument rien et je pense que c'est aux instituteurs et au personnel de l'école de se protéger et de faire attention, c'est-à-dire que les enfants peuvent se contacter entre eux, mais les enseignants, s'ils le peuvent, doivent rester à distance. Mais je crois qu'ils vont prévoir des mesures très spécifiques, hein. Ils n'ont pas grand-chose, enfin, ils pensent à ça, hein. On a parlé de Pierrot. Pierrot, je l'ai eu au téléphone, 49 degrés à l'ombre, donc il va plutôt bien, mais il se sent encore un peu fatigué, hein. Je m'astreins à faire 15 000 pas par jour avec des petits appareils. Génial. Je fais attention à mon alimentation et pourtant, je ne perds pas de poids. Pourquoi? Cathy, je l'ai déjà expliqué 1000 fois, mais ça fera 1001. Les répartitions, surtout si tu fais plus d'activité physique, les répartitions entre la graisse, le muscle et l'eau sont infiniment variables selon les périodes. Donc, c'est simplement possible que tu perdes de la graisse sans perdre, en prenant un peu de muscle ou un peu de flotte. Alors, la question, est-ce que les personnes âgées à risque sont maintenues confinées plus longtemps? Ils ne seront pas maintenus. C'est la précision que le gouvernement et le président ont apportée hier. On va leur faire une recommandation. Après, chacun d'entre nous est libre de se comporter comme il a envie de se comporter. Simplement, il faut que vous sachiez que si vous avez un certain âge… Alors maintenant, l'âge, c'est un peu difficile à évaluer, hein. Je veux dire, ils disent… C'est statistiquement, c'est plus de 65 ans. Maintenant, quelle différence il y a entre 64 et 66, hein? C'est assez finaçon à savoir. Donc, entre les deux, simplement, je répète la consigne, toute personne considérée comme un risque est une personne qui doit se protéger un peu des autres. Voilà. Bonsoir docteur, le surpoids n'est pas à risque. Si, Cathy de Versailles, tu as dû louper le début du live. Le surpoids n'est pas à risque. Pardon, ta question est plus précise que ça. Jusqu'à 30 d'IMC, ça semble pas être un facteur de risque, ou en tout cas, il est ridicule. Mais au-dessus de 30, oui, ça commence à être, je te l'ai dit, ou petit, ou moyen, ou fort. Est-ce que les collégiens et lycéens peuvent retourner en cours? Alors, je crois que l'opinion générale, c'est que ça va pas se faire comme ça. Il faut attendre les mesures qui vont être décidées. Je suis pas certain, ils peuvent pas rouvrir brutalement tout. Je pense qu'ils vont rouvrir par région et progressivement. À La Réunion, 400 cas avérés, 0 décès. Alors, pas tout à fait exact. À La Réunion, je crois qu'il y en a eu un, mais tu as raison, c'est pas grand-chose. Alors qu'ici, le taux de diabétique est élevé. Tu vois bien la spécificité de ce virus. De la même façon qu'en Afrique, on n'a pas la pandémie qu'on attendait. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a le sentiment vraiment qu'il y a une individualisation, qu'il y a des comportements particuliers ou des comportements individuels qui favorisent à la fois la contamination par le virus et sa diffusion. Vous intervenez sur quel hôpital et quelle est votre fonction? L'hôpital, c'est Pompidou. Et la fonction, c'est qu'en fait, je donne un coup de main. Ça veut dire que moi, je suis un spécialiste de la nutrition. Vous savez que quand on reste en réanimation pendant 20 jours, on ne reste pas sans manger. J'ai, dans le passé, été le promoteur de ce qu'on appelle les triglycérides de la chaîne moyenne. Donc, je manipule bien les poches de nutrition parentérale. Ben voilà, ils peuvent le faire sans moi parce que j'ai des protocoles assez bien établis, mais ça permet de décharger un réanimateur de plus qui, lui, va aller au chevet du malade. Donc, voilà ce que je fais. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus important dans l'activité du traitement, mais tout compte aujourd'hui de la même façon que le brancardier qui passe les patients du scanner à la chambre, ben, c'est un mec qui est vachement honorable parce que il est autant à risque que l'infirmier ou que le médecin qui s'en occupe. Hein. Que risquons-nous si nous consommons exceptionnellement des plats cuisinés sans les cuire dans leur barquette? Est-ce qu'ils seraient Alors, c'est seulement les barquettes en plastique, hein, vraiment, parce que les barquettes en métal, vous ne les passez pas au micro-ondes. Ce n'est pas un risque en soi-même, c'est le niveau de potentielle contamination est plus élevé. Alors, il est faible hein, quand même, il ne faut pas exagérer, mais c'est tellement mieux les mettre dans un saladier ou dans un bocal de verre. Voilà, c'est ça surtout. N'oubliez pas que tout ce qu'on donne comme consigne, ce n'est jamais des consignes formelles et définitives. Ce sont des consignes, des recommandations et c'est précautionneux, c'est de la prévention. Voilà. Même si on est traité pour l'hypertension, on est très à risque. Non, pas si tu es traité pour l'hypertension artérielle, tu es moins à risque et ça justifie le fait qu'il ne faut surtout pas arrêter le traitement et qu'il faut le prolonger avec le généraliste. Bonjour docteur, mon mari fait des bronchites chroniques, doit-il consulter notre médecin? Si c'est un bronchitique chronique, il sait ce qu'il doit faire. Les bronchitiques chroniques, il ne faut absolument pas hésiter à les mettre au moindre doute en ce moment. Hein. Sous azithromycine, c'est-à-dire le Zithromax, le médicament de M. Raoul, qui est un médicament qui est largement utilisé pour les, d'une façon générale. Et même, il y a des nouveaux protocoles de traitement pour les bronchitiques chroniques qui consistent à leur donner du Zithromax quasiment les 6 mois, automne et hiver, où il y a une menace. Là, moi, je préfère dans ces cas-là qu'on consulte un pneumologue pour avoir les meilleurs traitements, mais le généraliste connaît probablement tout ça aussi. Que pensez-vous de l'hypothèse d'un virus non naturel? Je ne sais pas, Dagoba, je ne sais pas. J'en sais rien du tout, c'est possible, mais je ne dis pas ce dont je ne suis pas sûr, donc je ne sais pas. On m'a mis sous Cymbalta pour des douleurs chroniques, perte d'appétit, oui ok, mais ce n'est pas un facteur de risque Céline, donc tu peux continuer à prendre ton Cymbalta et ce n'est pas un facteur de risque. Je ne sais pas si le fait d'être en surpoids a réellement une corrélation avec la morbidité, mais moi, ce n'est pas ce que je constate. Ah non, 49 degrés à l'ombre, je peux te dire que les chiffres ne mentent pas, je t'ai donné les chiffres exacts. 48,3% des gens en réanimation sont obèses. Il faudra l'expliquer un jour ou l'autre. Hein. Donc, c'est clair que ça se passe comme ça. Hein. J'ai un doute de l'avoir disparu le troisième jour et les membres de ma famille n'ont rien eu. Qu'en pensez-vous? Ben, franchement, il y a beaucoup de gens qui ont déclaré l'avoir eu et quand on leur fait un scanner, ça a été mon cas. J'ai été persuadé de l'avoir chopé quand j'étais revenu d'Asie en partie fin janvier. Et en fait, scanner et test, tout est négatif, donc je ne l'ai pas attrapé. Il y a eu beaucoup de confusion là-dedans. Voilà, il y a eu beaucoup de confusion là-dedans. Ma fille a 15 ans, 49 degrés à l'ombre, je crois que tu ne comprends pas le principe de la statistique. Tous les obèses ne vont pas finir en réa, mais en réa, on a quasiment 50% d'obèses. Hein. Mais c'est mondial, hein, ce n'est pas la France, hein, c'est mondial. Ma fille de 15 ans a le syndrome de Kress. Le virus est dangereux pour elle? Non, Béat Pfeffer, non, voilà. En effet, en réa sur mon hôpital, merci de ce témoignage, Vanessa, on constate que la plupart des patients ont une surcharge pondérale importante. C'est une statistique mondiale. C'est, tout le monde l'a observé, les Chinois, les Américains, nous, tout le monde l'a observé. Alors, ils sont toujours vivants. Là, je t'ai donné… Je n'ai pas les statistiques de décès. Par contre, personne ne les a. Et puis, c'est assez… Enfin, je veux dire, on ne cherche pas à les avoir, quoi. Tu vois, on sait que 50, toujours 49 degrés à l'ombre, on sait que 50% sont obèses et on sait que la moitié d'entre eux décéderont. Donc, je suppose que la moitié, oui. Mais tu vois, ce n'est pas rapporté au nombre de gens obèses. C'est ceux, les obèses, qui sont passés en réa. Voilà. Le mieux, consultez votre médecin pour lui poser la question. Voilà, c'est celui qui connaît mieux l'état de santé de votre mari. C'est pour ça que j'arrête pas de le dire, mais je comprends hein, ce qui s'est passé quand même. Je comprends qu'à un moment donné, c'était hyper stressant. Quand j'ai été faire mon scanner, pour une autre raison, hein, moi. Mais ma fille m'a tout de suite, ma fille qui est là, blog en l'occurrence, m'a tout de suite fait un scanner thoracique. Je lui avais rien demandé, hein, mais elle l'a fait. Mais je sentais bien le niveau de tension dans le cabinet de radiologie des gens qui étaient avec moi. qui se regardaient les uns les autres. Et pourtant, dans le cabinet de radiologie, là, en l'occurrence, c'était à Nuoche, c'est à l'IRP, dans le cabinet de radiologie, ils désinfectent en permanence, ils ont des précautions majeures, etc. Mais ça peut pas, ça n'empêche pas l'angoisse. On est dans un environnement médical, donc on pense tout de suite qu'il y a du Covid. Question, bonsoir Doc, Florence Voss, ne perdant pas trop de poids, est-ce que je peux commencer un jeûne à partir de demain? Oui, si tu veux, mais fais plutôt un jeûne intermittent qu'un jeûne complet, voilà. Les statistiques sont discriminantes, oui, mais elles permettent de dire, tu vois, 49 degrés à l'ombre, qui est très actif, elles permettent de dire de faire plus attention à ces gens-là, parce que l'objectif, c'est pas de les discriminer, l'objectif, c'est de leur dire attention, faites attention, ne prenez pas les choses à la légère. Bonsoir docteur, on parle de réouverture des écoles, quid des internats où la cohabitation peut favoriser la transmission. Franchement, je peux pas vous donner toutes les stats, mais on voit bien que de 0 à 14 ans, il n'y a rien, quoi. Ça veut dire, je crois qu'en France, on a eu, dans la période du 15 mars au, du 23 mars au 12 avril, si ma mémoire fonctionne bien, on a eu un cas grave chez les enfants. Un cas grave, un seul. Et après, on a quelques cas graves. Je crois qu'on en a eu 11, non, on en a eu 13 jusqu'à 25 ans. Et sur les 13, il n'y en a aucun qui est passé en RIA. Donc, voilà ce qu'on sait. Les statistiques nous servent à quoi? Elles nous servent simplement à isoler les facteurs de risque et elles servent également à comprendre les mécanismes de la maladie. Parce que quand on a une corrélation, une vraie corrélation entre une situation et la maladie, ça permet d'aller chercher sur certains territoires. C'est ça qui est intéressant. J'ai une question. J'ai mal au pied et j'aimerais savoir pour me soigner. Voilà, la question est con. Donc, Mohamed, tu viens de perdre l'occasion d'être sur les autres lives. C'est réglé. Attendez, que je ne loupe pas vos questions parce qu'après, vous m'engueulez. Voilà. Chaud. Ça y est. Que pensez-vous des produits minceurs? Il n'y en a pas beaucoup qui soient utiles. Hein. Il y avait une petite mouche. J'ai des problèmes vasculaires et je viens d'avoir deux stents. Suis-je à risque? Ouais, un petit peu, Tony SF. Mais à risque ne signifie pas que vous allez attraper. Hein. Ça signifie qu'il faut faire attention. C'est pas plus que ça, les copains. Est-ce dangereux de retourner chez mes parents après le 11 mai? Il suffit que j'attrape le virus juste avant et que je sois porteur simple, par exemple. Alors, si c'est des personnes âgées, si elles ont plus de 70 ans, moi, je mettrai la barre à 70 ans. Ouais, c'est pas prudent. Voilà. Pendant quelques temps, ça va pas durer 10 ans. Hein. Ça va durer, à mon avis, quelques mois. Voilà. Laurent Joseph, j'ai une SPA et anti-infant antistéroïdien, est-ce que je suis à risque? Alors, pour les anti-inflammatoires, assez curieusement, je ne sais pas si vous souvenez des premières déclarations d'Olivier Véran sur les anti-inflammatoires. Les choses ont changé. Alors, je ne vous dis pas d'en prendre parce qu'au début de la maladie, on ne sait pas, ça peut peut-être faire flamber le virus. Mais par contre, quand les gens ont un gros syndrome inflammatoire pulmonaire, aujourd'hui, maintenant, on met des anti-inflammatoires très puissants. Est-ce que tu es à risque? Ouais. Vous savez, ça me fait vraiment de la peine de vous répondre ça parce que ne croyez pas que nous, les soignants, on est affectés par tout ça. On est affectés soit parce qu'on connaît les gens, soit parce qu'on ne les connaît pas et qu'on voit des situations assez désolantes. Donc, ça ne me fait pas plaisir du tout de vous dire ça, mais en même temps, je dois vous prévenir et vous avertir de telle façon à ce que vous vous protégiez le mieux possible. Mais même si les enfants et ados ne risquent pas grand-chose, ils peuvent contaminer leurs parents, absolument. Ouais, absolument. Mais je vous dis, c'est compensé par le fait que quand même, 81% des gens ne vont rien sentir passer dans l'histoire et que les autres, ils auront peut-être une énorme grippe, j'aime pas l'appeler comme ça, mais ils seront vachement fatigués, mais qu'ils s'en sortiront quand même. Je suis votre programme et j'arrive pas à manger la totalité de ma viande, c'est normal. C'est pas grave si tu la manges pas complètement, Sandra. Ça, c'est pas du tout dérangeant. Pourquoi le gouvernement... Mais ma question, c'est pourquoi le gouvernement privilégie une ouverture des écoles plutôt que les restaurants? Les restaurants, d'abord, tout le monde le sait, la contiguïté, elle est très, très forte. Je veux dire, l'histoire de mettre des écartements dans les restaurants, franchement, je vois mal le serveur jeter l'assiette comme ça. Donc, c'est ça. Ensuite, concernant les écoles, l'éducation, ça reste un facteur beaucoup plus important que de se faire plaisir en allant manger au restaurant. Et l'éducation, c'est si on n'arrive pas à faire travailler les enfants, 6 mois de retard scolaire, c'est 6 mois de retard sur le développement global de la culture des individus et c'est 6 mois de développement sur leur arrivée, sur des fonctions importantes et sur la compréhension de la suite. Voilà. Est-ce que le vaccin Prénovar, c'est le vaccin anti pour la pneumonie à pneumocoque, protège-t-il un peu les poumons? Après 65 ans, normalement, tout le monde devrait le faire. Là, en l'occurrence, il ne protège pas spécialement pour le Covid. Thibault Leblanc, docteur, j'ai une sorte de petite kyste entre mes abdominaux depuis plusieurs semaines. Est-ce urgent de consulter? C'est très discret, quasiment pas douloureux. Alors, ce n'est pas urgent de consulter parce que ça peut être plein de choses. Ça peut être soit un petit kyste sébacé qui n'est pas infecté. Ça peut être aussi une petite hernie. C'était un grand sportif, ce qui m'est arrivé à moi en faisant trop d'abdominaux. C'est-à-dire que je me suis fait une déchirure sur un abdomen. Je ne vous dis pas que j'ai les plus gros abdominaux de la Terre, mais bon, j'en fais quand même. Est-ce que… Alors, encore, vous avez plein de questions. Hein. Vous êtes toujours… Sinon, est-ce que le Covid est un risque sur des crises d'aura, sachant que l'ibuprofène est déconseillé avec le Covid? Non. Oui, c'est une crise d'aura. Je ne sais pas ce que c'est. Enfin, en tout cas, avant d'être, si, ne prenez pas d'anti-inflammatoire, sauf si vous avez une maladie chronique qui vous oblige à le faire, parce que ce n'est pas la même chose. Ne prenez pas d'anti-inflammatoire et laissez les médecins vous les donner s'ils ont besoin. Hein. Bonsoir docteur, si on ne teste pas tout le monde après le confinement, une deuxième vague est-elle probable? Oui, il vient de l'annoncer, je pense, pour ceux qui ont suivi. Moi, j'ai eu le temps de suivre jusque-là. Il a prévu de larges tests, le Premier ministre, vraiment de tester tous les gens qui auront des débuts de symptômes. Et ils sont en train de prévoir ça. Mais il y aura une deuxième vague, mais elle ne sera pas aussi violente, à mon avis, que celle-ci. Hein. Alors, cette question est importante. Annie Boucher, avec une CEP, est-on plus fragile? Oui, on est plus fragile. D'autant plus, ça peut aggraver la CEP, notamment. D'autant plus qu'on sait maintenant que le Covid a aussi une affinité pour les cellules neurologiques. Est-ce que l'apparition de rougeurs douloureuses aux mains est un symptôme du Covid? Alors, je ne crois pas, même si les dermatologues signalent ça. Maintenant, si ça se limite à ça, bah, peut-être que tu l'as attrapé, mais en tout cas, ça ne sera pas grave. Dorothée, j'ai passé mon scanner abdo. Ils m'ont trouvé un trou au foie et je dois passer IRM et mardi écho. Non, tu vas voir que c'est un kyste liquidien, comme beaucoup de gens en ont. Ce n'est pas très grave du tout. Bonsoir, docteur. Que pensez-vous du jeûne long à l'eau? Est-il bon pour la santé? La réponse est fermement non. Et je n'ai rien contre les gens qui font le jeûne, mais je dis la vérité. Quoi. C'est juste ça. Il y a des questions rigolotes. Ça fait plaisir. J'ai un VPH 131. Est-ce que je suis à risque? Si c'est ce que je pense, non. Mais il faudrait que je vérifie ce que tu entends par là. Comment annoncer à mes parents que je ne peux pas aller passer une semaine avec eux au mois de juin? Ils ont 70 et 71 ans et mon père est obèse. Tu sais, ils vont comprendre très, très facilement. Hein. Si tu leur dis que… Alors, tu peux aller passer une semaine chez eux, mais à ce moment-là, ils sont masqués, tu es masqué et pas avec des masques rikiki, hein, c'est-à-dire pas avec une écharpe. Mais tu peux leur expliquer que tu passeras une semaine plus tard. Mais moi, je ne peux pas te dire d'y aller. C'est pas correct. Docteur Cohen, je suis addict au kebab. J'aimerais varier mon alimentation. Comment faire si on aime un aliment et que l'envie s'en fait ressentir constamment? Eh bien, on le fait de temps en temps, mais pas tout le temps. Je pense que c'était une question évidente. Est-ce que le Covid est un risque sur des crises d'aura, sachant que l'ibuprofène? Ben non, j'ai répondu à la question, je n'ai pas compris. J'aimerais savoir si on peut vous voir en consultation après le confinement. Oui, oui, absolument. Le 11 mai, moi, je reprends les activités avec le masque, et etc. Première chimio cancer du sein, est-il vrai que je dois supprimer les gâteaux? Oui, Sandrine Burnet. Puisque tu as atteint ton poids avec mon programme, ce que je te demande, c'est de passer à un régime strict sans sucre. Le sucre est vraiment un facteur aggravant du cancer du sein. Donc, s'il te plaît, fais attention. Début de la deuxième vague, 25 mai. Non, ce ne sera pas comme ça. D'abord pour deux facteurs, parce qu'on suppose que pendant l'été, il y aura une diminution de l'activation du virus, et la deuxième vague, elle sera attendue plutôt à l'automne. Et puis, ça va dépendre de l'efficacité et de ce qu'on va faire nous, et de ce qu'ils vont faire eux au niveau du gouvernement pour nous protéger. Hein. On parle un peu du BCG, quel est le rapport par rapport au Covid? Ah oui, c'est une explication. Elle est un peu trop simple pour expliquer tout. Elle est testée à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'inventaire qui est fait sur la relation entre BCG justement le fait qu'il y a plein de gens qui n'ont pas été infectés, et notamment les enfants, mais on n'est pas sûr, vraiment, ça ne semble pas être ça. Hein. Ai-je le droit de recevoir ma famille ou des amis à partir du 11 mai? Oui, à condition que tu ne fasses pas des trop grosses fêtes, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas 50 personnes chez toi, et que quand vous vous recevez, vous teniez des distances raisonnables, 1 mètre c'est raisonnable quand même, hein. On n'est pas obligé de se coller, on ne s'embrasse pas, on n'est pas obligé de porter un masque, et les verres et les assiettes et les couverts, ils sont individualisés et après on les met au lave-vaisselle à plus de 60 degrés. Hein. Est-il déconseillé de faire un régime pendant l'épidémie ? Ah non, au contraire, hein, vraiment, Eman, c'est plutôt le moment de démarrer un régime. Hein. J'aimerais savoir, j'ai subi un sleeve il y a un an et j'ai peur de reprendre mes kilos. Comment éviter cette prise de poids par la reprise en main de ton contrôle alimentaire? Je vais passer un peu sur Instagram parce que c'est pas sympa. À chaque fois, je fais les questions de Facebook et je fais pas les questions d'Instagram. Alors que, bon, ils en ont moins que vous en général, mais elles ont autant de valeur. Ma belle-fille accouche, ça y est, je t'ai répondu, Corinne. Je pense pas qu'il puisse assister à l'accouchement, hein, Corinne. Demain échographie, pourquoi mon fils ne peut pas être présent, il reste à la porte de l'établissement, moins il y a de circulation dans les cabinets médicaux, on refuse maintenant qu'il y ait 20 personnes en même temps. Donc voilà, mais il a les photos, de toute façon il ne comprendra rien, s'il a les photos et le film ça suffira. Les pathologies neurologiques sont à risque. Vol Air France Paris Marseille bondé sans espace, j'ai vu ça, sans besoin d'attestation, j'ai vu ça, c'est incroyable, c'est-à-dire que on nous demande de faire attention et j'ai découvert en regardant sur le, en fait j'ai regardé sur les infos, mais j'ai regardé sur le blog de Morandini, il y avait la photo, les gens qui vont, qui font des vols Paris-Marseille, le vol il était bondé, les amis, les gens ils étaient ça comme ça, c'est honteux, hein. Je t'aime beaucoup, t'es comme mon grand-père, t'es dégueulasse, Rimker, j'ai pas l'âge d'être ton grand-père, voilà. Non, je pense que les maris ne pourront pas accoucher aux accouchements pour protéger les enfants. Les petits-enfants, on les reverra. C'est, ne vous inquiétez pas, c'est pas fini. C'est juste une seule personne, une période pendant laquelle on va être attentif. Vous aurez peut-être jamais rien, vous êtes peut-être même pas du tout sujet à risque et peut-être même pas objet à être contaminé. Mais c'est pas grave. On fait attention à tout le monde. Ça va durer quelques mois. Ça va pas. Mais il faut le faire. C'est après, on a bien l'air idiot si on l'a pas fait, si on regrette parce qu'on a chopé quelque chose. Hein. J'ai travaillé 4 jours et ça m'a fait bien fou. Ben oui, je comprends, Jamila. Je t'ai vu d'ailleurs sur le live de MM Fight la dernière fois. Ben, tu vois, heureusement, tous ceux qui ont perdu là, les grands succès de perte de poids qu'on a eu sur Savoir Maigrir, là, les moins 20, moins 30, moins 40 kilos, vraiment, c'était une belle opportunité juste avant ça. Hein. Je fais entièrement confiance à ceux qui nous gouvernent. Je les trouve très bons. Il faut juste se poser la question, qui en France aujourd'hui aurait fait mieux qu'eux ? Est-ce que ça serait, je ne veux pas faire de politique, mais est-ce que ça serait M. Mélenchon qui s'affole à l'idée qu'on nous remette au travail ? Est-ce que ça serait M. Ciotti qui trouve que tout est mal fait ? Est-ce que ça serait Mme Le Pen qui pense qu'elle aurait vachement mieux géré la crise ? Moi, je trouve que pour l'instant, ils font le job. En tout cas, ils essayent de le faire le mieux possible. Je trouve que les mesures économiques, franchement, bravo, hein, je veux dire, bravo, hein. Et vous pensez qu'on portera un masque tout le temps ? Ah, je pense qu'il y a des habitudes qui vont changer. Hein. Il y a des trucs qui vont se modifier dans le futur. On va arrêter de s'embrasser à tire-larigot comme se moquent de nous les Anglais. Vous pensez quoi de l'alimentation sans laitage pour les douleurs d'arthrose ? Écoute, fais clochette. Franchement, moi, je pense que non. Mais il y a tellement de gens qui disent que ça les a améliorés, que ça vaut le coup que tu essayes. Et si ça marche, eh ben voilà, ça marchera. Mais je n'ai pas l'argumentaire scientifique. C'est-à-dire, les trucs qu'on me raconte, ils ne sont pas vrais. Hein. Je t'ai répondu, Evelyne, il ne pourra pas accoucher, il ne pourra pas assister à l'accouchement, à mon avis. Hein. Maintenant, peut-être que certaines cliniques vont accepter, hein, j'en sais rien. Le test sérologique, le test avec la goutte de sang, est-ce que vous savez si nous allons… Ouais, il va se généraliser, il va y en avoir de plus en plus, il ne va pas valoir cher, il va valoir 10 euros et on pourra le faire dans les pharmacies. La problématique, c'est qu'on a encore des tests négatifs dans les tests, des faux négatifs dans les tests sérologiques. Et donc, ça va être un peu compliqué, mais je pense que dans très peu de temps, c'est ce que prépare à mon avis le gouvernement, à partir du 11 mai, tout le monde va pouvoir faire le test sérologique à la demande. Ils vont le réserver aux gens qui ont des symptômes. Et ils ont raison. C'est, je veux dire, on va pas, sinon on fait un test à tire-larigot. C'est, je ne l'ai pas, donc je le refais demain, etc. Mais si vous avez le moindre symptôme, mal de gorge, fièvre, douleur, etc., vous aurez immédiatement accès au test sérologique et là, on saura. Voilà. Je continue un peu. Si, bien sûr, on est tous inquiets, mais restons positifs. Mais oui, parce que ça change rien à la situation. Moi, je me souviens de cette phrase Dalai Lama qui disait « Si tu as un souci et que tu as une solution, alors ne t'inquiète pas. Si tu as un souci et que tu n'as pas de solution, alors ne t'inquiète pas. » Mais là, en l'occurrence, on a une solution. La solution, c'est clairement la protection individuelle et la protection collective. Protection individuelle, on fait gaffe à nous-mêmes. Moi, je le fais, hein, je veux dire, je me masque, je fais attention à tout ce que je fais, je me lave les mains vachement souvent. À mon cabinet, à partir du moment où je vais reprendre mon activité, tous mes patients porteront un masque et on désinfecte très, très prudemment les poignées de porte, portes, les portes, les supports, etc. Mes secrétaires sont protégés. On a acheté des plaques en plexiglas avec des petits trucs qui giaphonent pour que les gens entendent. Voilà, bon, on va faire comme on peut faire. Mais souvenez-vous quand même, quand il y a eu des grandes épidémies, la fièvre espagnole, la grippe espagnole, le typhus, la peste, mais qu'est-ce que les gens sont morts? Mais ça n'a rien à voir. Je veux dire, on les mettait dans des charrettes tellement ils mouraient. Là, ce n'est pas le cas. Là, quand même, je vous rappelle que la mortalité, elle sera, c'est énorme, mais elle sera au maximum de 2%. Elle suit la pyramide d'âge, c'est-à-dire qu'après 85 ans, c'est chaud, bouillant, et que la plupart des autres personnes vont quand même être malades peut-être, soit très légèrement, soit un peu plus fort, mais quand même, on en guérit, quoi. Là, ce qu'ils essayent d'éviter, c'est qu'il y ait 10 000 personnes qui arrivent en réa du jour au lendemain, et alors va hospitaliser un type qui fait un pneumothorax, un gars qui fait un infarctus. Il ne faut pas oublier ça. Ça veut dire que la réa, elle ne sert pas juste au Covid, hein, tout le restant de l'année. Tout le restant de l'année, il y a plein de gens qui passent en réa pour un moment ou pour longtemps, mais pour d'autres maladies que le Covid. Hein. Là, c'est ça qui fout le désordre. Hein. Le Premier ministre a dit le vaccin mi-21, pas avant tout à l'heure. Il n'en sait rien du tout. Édouard est un type très, très sérieux. Pardonnez-moi de l'appeler Édouard. Mais Édouard est un type très, très sérieux. Il suppose ça, mais je pense qu'il n'a pas plus de renseignements que nous tous là-dessus. Il avait donné le score. Il y en a une vingtaine qui sont à l'étude, 5 qui sont déjà à l'essai chez les hommes, et on en a un chez Pasteur. Pasteur étant un grand institut. Hein. Donc, l'honnêteté, la transparence, oui, mais ça ne me fait pas plaisir, parce que les nouvelles que je vous donne, elles ne sont pas forcément extraordinairement sympas. Quel type d'alimentation adopter pour diminuer l'inflammation? C'est une diminution des protéines. Maxou Dani, je te connais maintenant. Bonsoir docteur, prendre le métro sans masque, c'est franchement pas rassurant. Totalement, tu as totalement raison. Et je pense que ça va devenir même une obligation dans les transports. Et je pense qu'Air France va le faire aussi. Dès qu'on prendra notre billet d'avion, le gars, il va nous filer un masque. Et tout le monde devra être masqué, en tout cas pendant quelques temps. Hein. Pour les obèses, la vitamine D est mal absorbée. Il faut qu'ils en prennent beaucoup plus. Oui, et puis il faut et surtout, la vitamine D est une vitamine liposoluble. C'est-à-dire elle n'est absorbée que si elle est accompagnée d'un peu de graisse. Et dans ce cas-là, ben oui, forcément, il faudra plus de vitamine D. Alors, Franck-Antoine, ça va être tendu dans les transports. Oui, bien sûr. Je n'ai pas maigri depuis et pris 590 grammes. Ne vous inquiétez pas. Je pense que la reperte de poids, elle va s'opérer. Dans ceux qui sont sur Savoir Maigrir, vous avez les programmes confinement et vous avez vos régimes traditionnels à adopter. Ce n'est pas compliqué dans la mesure où… c'est pas compliqué quoi. Il y a pas de pénurie alimentaire, donc vous pouvez le faire. Pour ceux qui ont du mal à perdre du poids ou à cause de l'excès de stress qu'ils ont, c'est pas très grave. Attendez de sortir un peu et vous allez voir que ça va s'arranger tout seul. Avec le masque, plus besoin de rouge à lèvres, c'est génial. Ouais. Regardez sur mon Instagram de temps en temps quand je trouve des trucs très drôles, je vous les poste. Il y avait un truc qui m'avait fait beaucoup rigoler, c'est quand il y avait quelqu'un qui avait posté un truc qui disait « Ma voisine engueule tellement ses enfants que je me suis senti obligé de ranger moi-même ma maison. » « Je fais plus de sport. » Oui, ils ont terminé sur la 2, ils ont été très longs. Mais ce n'est pas grave, c'est un exercice de compréhension. J'ai trouvé simplement que le discours de Madame Adair, qui est vraiment remarquable hein, comme médecin, et que je préfère nettement à certains médecins que j'ai vus précédemment, notamment le docteur Lacombe, qui est un bon médecin, mais qui passe son temps sur les plateaux de télé, et qui a fait un combat personnel d'agresser Raoult. Je trouve que Madame Adair est remarquable, en tout cas, en ce moment. Hein. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Il est 19h, je vais finir sur une blague. Il est 19h57, vous allez pouvoir applaudir les soignants à la fenêtre. La dernière fois, ma voisine qui est en face applaudit régulièrement tous les soirs les soignants et elle m'a dit « Mais votre femme est là tous les soirs et jamais vous. » Et je lui ai dit « Écoutez, c'est un peu délicat. Hein. Je veux dire, je me considère comme un soignant, donc je ne vais pas aller m'auto-applaudir. » Elle m'a dit « Non, mais mettez-vous à la fenêtre. Tout le quartier sait que vous êtes médecin. On vous voit partir, on vous voit revenir, etc. Applaudissez-nous d'applaudir. » Et bien, hier soir, je l'ai fait. Donc, je les ai applaudis. Et ils m'ont tous fait des trucs comme ça, voilà. C'était hyper sympa. Voilà, cet exercice de solidarité, je le surkiffe à l'heure actuelle. Soyez gentils, arrêtez les gâteaux, à Pompidou. ça devient du gâchis. Ça veut dire qu'on est obligé de les redistribuer tellement on en a, quoi. Essayez de changer à part les gâteaux à la crème et au chocolat. Voilà, on se retrouve mercredi soir. Alors, pour ceux qui sont abonnés à Savoir Maigrir, demain, normalement, c'est, je vous fais votre exercice de consultation privée. Je serai là de 13h à 13h30, 13h45, car je dois impérativement être à l'hôpital à 14h. Donc, le temps d'y aller, il faut que j'ai le temps d'y aller. Mais par contre, j'en ferai deux cette semaine et peut-être que jusqu'à la fin du confinement, j'en referai deux par semaine, histoire d'être encore plus présent avec vous. Voilà, je vous embrasse toutes et tous. Il vous reste très exactement une minute pour vous jeter à la fenêtre, pas sur la fenêtre, pas sur le trottoir, et pour aller les applaudir, parce que franchement, je pense à toutes ces femmes qui ont des enfants, tous ces hommes, etc., qui n'ont pas des tâches faciles. Chapeau. Salut les amis!